Ils sont malades.
C'est le seul diagnostic.
Vraiment malades.
Donc j'ai connu le ver solitaire, mais aussi le ver solidaire.
Chaque lundi, ils se regroupent dans leur quartier général à Roubaix. Et ils enregistrent une émission de radio pour propager leurs bonnes paroles et venir en aide aux gens qui sont comme eux. Dans le milieu, on les appelle... Vous allez maintenant entendre leur dernière émission.
On avait dit sérieux, les filles,
là.
Bonjour, chers auditrices. Nous sommes bien à l'émission 273 des Entonnoirs. Donc tout d'abord, la première partie de l'émission concerne le morceau de musique de Roger Lucien.
Ensuite, nous aurons l'interview de la compagnie Tambour Battant.
Ensuite, une pause musicale avec Margot sur Karen Cheryl.
Puis nous passerons à la rubrique La fourmi des spectacles de Nathalie.
Ensuite, nous allons enchaîner avec la chronique santé sur l'hospitalisation de Margot.
Ensuite, Guylaine nous parlera des OGM.
Ensuite, la spirale de Jérôme et François, donc deux musiques différentes.
Puis viendra l'avenir du futur, la quarantaine, avec une petite surprise de Florent.
On ne dit rien. Ensuite, nous allons poursuivre avec l'habituelle pensée de la semaine de Nathalie sur la simplicité.
Puis nous poursuivrons avec la météo de Brahim.
Et nous finirons avec la musique de Brahim sur Nena. Voilà. Roger Lucien, à ton tour. Hein.
Bonjour, chers auditeurs, auditrices. Aujourd'hui, nous allons prendre la direction de la Côte d'Ivoire, où nous allons écouter un chanteur qu'on appelle Frankie DiCaprio et qui nous interprète Fatigué, Fatigué. C'est un genre musical typiquement ivoirien. Vous allez voir.
Yeah.
les entonnoirs.
Ici des fous.
Pardon ?
Ici des fous.
C'était donc un genre musical typiquement ivoirien. Peut-être dans nos studios et chers auditeurs et auditrices, certains en ont peut-être déjà entendu parler. Il s'agit du coupé décalé.
Merci Roger Lucien pour cette belle page musicale et ensoleillée. Alors maintenant, nous allons poursuivre avec l'interview de la compagnie Tambour Battant. Alors, messieurs, dames, pouvez-vous vous présenter votre compagnie ? Alors, qui commence ? Qui se lance à l'eau ? On y va ?
Alors, bonjour. Moi, je m'appelle Grégory, je suis le metteur en scène de la compagnie et aussi je joue dans les spectacles de temps en temps, notamment celui-là. D'accord. On fait le tour,
allez-y. Ouais.
Donc, je suis Rabat, comédien de la compagnie, et je voulais préciser, je suis le chef de la compagnie, parce que je fais 1m76 et c'est la taille d'un chef. Enfin, je crois, non ? Marjorie, tu crois pas ? Donc c'est Marjorie là qui. D'accord.
Oui, écoute, si tu veux t'autoproclamer chef, il n'y a pas de problème. Comme tu veux.
Et tu es comédienne, c'est ça ?
Oui.
Mais tu danses aussi, non ?
Difficilement, mais je m'en sors comme je peux. Ouais. Voilà.
Et vous, c'est ?
Moi, c'est Sandrine. Moi, je viens plus du cirque. Je suis circassienne, on dit. Et voilà, c'est le deuxième spectacle de la compagnie dans lequel je suis partie. Et voilà.
Alors moi, c'est Maud. Je suis danseuse contemporaine dans la compagnie. Je parle pas beaucoup, mais j'ai beaucoup de bruit. Voilà.
D'accord.
Bonjour, moi c'est Solène. Je suis artiste de cirque aussi, plutôt porteur sur ce projet.
D'accord.
Bonjour, Michael. Moi, je suis comédien dans la compagnie et je supporte pas les circassiens.
D'accord. Alors, on a des questions. Qui veut poser la première question ?
Pourquoi vous avez écrit ces pièces et dans quel but ?
Alors, je réponds. Cette pièce-là, dans quel, pourquoi on l'a écrit ? Alors, cette pièce s'appelle « Nous pourrions être des héros ». C'est un spectacle de rue qui se joue à l'extérieur, donc, et qui mélange, comme vous avez pu l'entendre, plusieurs disciplines, le théâtre, le cirque, la danse. On essaie de mélanger un petit peu tout ça. On fait des spectacles de rue depuis maintenant plusieurs années. Alors pourquoi on a fait celui-là ? Parce que ça fait plusieurs années qu'on fait des choses en extérieur et sur des places, par exemple, notamment sur des places. Et on s'est rendu compte que, comme tout à chacun, quand on se promène sur une place publique, la grande place de Roubaix ou de Lille ou que sais-je, et tous les gens qui sont là, forcément, on les connaît pas, on sait pas qui c'est, on les regarde même pas, ils sont à peu près tous pareils. Et on s'est dit, c'est tous ces gens-là qui circulent, si on allait les voir de plus près, si on s'intéressait d'un peu plus près à eux, est-ce qu'ils seraient vraiment comme les autres ou est-ce qu'ils ont des choses en eux qui font que ils sont pareils à nul autre ? Donc c'est un peu là-dessus qu'on travaille, en utilisant comme support de travail les super-héros de bande dessinée, d'où le titre, nous pourrions être des héros, donc Superman, Batman, etc., etc.
Hulk.
Et Spider-Man. Non, pas Spider-Man, on l'a pas encore.
Et quels sont les sujets que vous abordez en fait ? Quels sont les grands thèmes de la dernière pièce que vous abordez ?
Les grands thèmes, c'est ça. Alors, pour faire simple, c'est le grand thème du spectacle, c'est comment, pour résumer vraiment en une phrase un peu schématique, comment le monde dans lequel on vit étouffe un peu en nous les enfants, l'enfant qui est en nous, les rêves qu'on a, nos folies, tout ce qui ferait qu'on sera un peu décalé par rapport à la norme, et toutes ces choses-là qui sont un peu étouffées pour qu'on soit tous bien, tous dans le même rang. Donc nous on s'est dit toutes ces choses là qu'on voit plus, on va aller les ressortir, on va faire un spectacle avec.
D'accord. François, une question. J'ai lu un petit peu un dossier de presse sur vous et j'ai vu que vous parliez de surconsommation, d'éco-responsabilité aussi, il me semble, enfin.
Ah oui, alors ça c'est peut-être plus sur d'autres activités de la compagnie, parce que là le projet qu'on est en train de mener ici, la condition publique, c'est pas le seul projet sur lequel on travaille. On a d'autres spectacles qui sont aussi des spectacles de rue d'ailleurs, avec des équipes plus restreintes. On a un spectacle qui s'appelle l'effet papillon, où il y a trois comédiens. Deux comédiens et un musicien, et qui parlent effectivement de ça, de surconsommation, de développement durable, et de comment on peut gérer ces notions-là aujourd'hui dans notre vie de tous les jours.
Et tout ça sur le ton de la moquerie, de la caricature, enfin de...
Ah pas du tout, non, pas du tout. La moquerie, la caricature, c'est pas du tout des...
C'est ce que j'ai lu dans l'article de presse.
Ah oui, je ne sais pas qui est... Enfin... Sur le ton de oui, sur l'effet papillon, oui, on peut dire que ça.
C'est de la dérision.
Oui, un peu d'ironie peut-être, mais on évite de sombrer dans la moquerie parce que les choses dont on parle en général, on est concerné au premier rang par ça, donc on évite de s'en moquer. Après, ça dépend. Hein. Là, le spectacle, nous pourrions être des héros, c'est il y a ni ironie ni burlesque. C'est vraiment carrément sur un autre type d'émotion qu'on travaille.
D'accord, François.
Et justement, est-ce que vous mettez en pratique cette théorie d'éco-responsabilité ?
Eh bien, là, par exemple, sur ce spectacle-là, on travaille sans rien. On n'a pas de décor, on n'a pas de matériel, on n'a rien. Donc voilà, on a juste nous et nos corps. Donc c'est le principe de base de la décroissance, ouais. De travailler juste avec ce qu'on a sous la main, donc nos corps.
C'est pour tout public, hein. Pour tout public, vos spectacles, il y a même une limite d'âge.
Ça dépend lesquels. Celui qu'on est en train de travailler, je suis pas sûr qu'il sera vraiment tout public au bout du compte. C'est vraiment, ça dépend des spectacles. C'est un peu difficile à dire. Celui-là, je pense pas qu'il sera vraiment tout public.
Je voulais savoir, est-ce qu'il y a un message à travers vos spectacles que vous voulez faire passer. Pensez-vous être des artistes engagés?
Peut-être je peux passer la main sur cette question.
Alors, veut bien répondre? Ou c'est toujours le même? Allez, on choisit, on se lance, c'est parti.
Des artistes engagés par notre choix de vie, par nos choix de projet aussi, de travailler avec des compagnies qui défendent des valeurs à travers leur spectacle. Oui, il me semble qu'à un moment donné, on essaye de chacun son niveau d'avancer et de défendre des choses.
Vous avez un message donc à faire passer?
Je sais pas si j'ai un message à faire passer, mais j'ai des valeurs à défendre en tout cas.
Ouais, c'est très bien. Franck?
Mais vous faites des acrobaties, parce que quand on dit circassien, c'est qu'on fait des acrobaties, est-ce que c'est pas, il y a des trucs dangereux ou quoi? Monsieur, et vous êtes circassien, donc c'est ça?
Pas du cirque? Non, moi pas du tout, non. Non, j'ai essayé d'arrêter.
C'est Solène.
Voilà, c'est moi le porteur.
D'accord. Et c'est dangereux?
Et moi la voiture.
Il n'y a jamais de problème.
Si. Bon. Mais on apprend à les gérer, justement.
C'est du métier. Hein.
On apprend à tomber, on apprend à se réceptionner. C'est un apprentissage qui prend du temps. On a travaillé avec des professeurs, des enseignants qui nous ont fait part de leur expérience et nous ont partagé avec nous leur manière de faire de l'acrobatie.
Et vous avez toujours fait ça ou c'est sur un coup de tête?
Moi personnellement, je m'y suis mis à 23 ans. Voilà. Avant, j'étais étudiant en histoire à Paris. Voilà.
Roger Lucien,
vous êtes ensemble depuis combien de temps? Combien d'années?
On va laisser parler les femmes.
Allez,
les femmes, on est aux femmes là. Allez, défendez-vous, mesdames.
Ça dépend, en fait. La compagnie existe depuis plus de 10 ans.
Depuis un bon 10 ans.
Une petite dizaine d'années. Et après, il y a des membres de la compagnie qui sont là depuis le début, comme Mike. Toi, t'es là depuis le début, et Rabat quasiment aussi. Moi, je suis présente au sein de la compagnie depuis 6 ans. Depuis 2006. Maud, t'as rejoint la compagnie
depuis 5 ans à peu près, oui.
5 ans, et puis Solène et Sandrine depuis 3-4 ans aussi.
Nous, c'est le deuxième projet qu'on fait avec les Tambours Battants. Un premier spectacle en 2006, et puis celui-ci en 2012.
Donc voilà.
Alors, Roger Lucien,
pour les personnes arrivées après dans la compagnie, comment avez-vous été intégrés dans la compagnie? par...
Ça n'a pas été facile. Il a fallu remplir des des normes, des formulaires, tout un tas de choses, bisoutage. Non, ça s'est fait tranquillement.
Au niveau de la mixité, il y a plutôt des émergés, filles, garçons. Est-ce que c'est filles, garçons, est-ce que plus de garçons que de filles par exemple, vous voulez, hein.
Au début, non, Gaëlle pourra en témoigner, c'était une comédienne qui fait toujours partie de la compagnie, qui a bien morflé, mais maintenant on a ajouté un petit peu plus de filles, donc ça s'équilibre.
Ça s'équilibre. On est toujours moins bien payé, mais bon.
Ça c'est normal.
Non, vous n'êtes pas payé du tout, on vous a pas dit en fait.
Est-ce que vous avez un autre métier ou alors vous ne faites que du travail pour la compagnie ?
Oui, bien sûr. Moi, à côté, je suis comédien, en fait.
Non, ou est-ce que tu voulais dire si on travaille pour d'autres compagnies aussi ?
Non, si vous avez un métier à côté, que vous faites parvient à nourrir son homme.
Bah non, c'est notre métier, en fait.
D'accord, ça parvient à nourrir son homme.
Oui.
Ma famille.
Avec des hauts et des bas, bien sûr, mais oui, on s'en sort. Moi, ça fait partie de l'engagement, justement. C'est aussi de c'est des choix de vie, donc c'est pas toujours simple, bien sûr, mais c'est un choix et on a la chance de faire aussi ce qu'on aime. On l'a choisi, donc il y a des jours où on mange des pâtes, mais il y a des jours où c'est mieux.
Ouais. Bah bon, je pense que là où
parfois
c'est.
Parfois, on a du gruyère.
Bah moi, je sais que personnellement, par rapport à d'autres. Enfin, voilà, je pense au gars qui se lève le matin pour faire ses 8 heures à l'usine. Moi, je fais peut-être pas toujours mes 8 heures, mais au moins, je fais un truc qui me plaît, quoi.
Mm-hmm. Oui, j'ai une chance.
Nathalie.
Où votre pièce est jouée, et où et quand, et où on peut aller vous voir, hein.
Alors là, pour l'instant, cette pièce-là, on peut pas la voir puisqu'on vient juste de commencer à la travailler. Notre semaine ici à la Condition Publique, c'est notre toute première semaine de travail sur ce spectacle, donc on est vraiment au tout début. Alors ce spectacle, il a la particularité d'être participatif aussi. Donc là, on est 7 autour de la table, on est 7 interprètes principaux, mais on travaille aussi avec des amateurs. Et le but du jeu, c'est de travailler avec une cinquantaine d'amateurs à chaque fois qu'on joue le spectacle. Donc c'est quand même un gros travail en plus sur le projet. Et là, on travaille du côté d'Orchy. Entre autres, à Marchienne, à côté d'Orchy, entre Orchy et Valenciennes. Et on travaille là sur un certain nombre de villages, on est en résidence, et donc on travaille avec les habitants qui participent au spectacle, et c'est là qu'on jouera la première fois au mois de mai, probablement au mois de mai 2013. Mais pour l'instant, les dates sont pas encore fixées.
Eh bien, on vous remercie tous et toutes.
Oui, on vous remercie.
Et nous allons passer à la rubrique suivante, n'est-ce pas, Florent?
Tout à fait. Margot, vas-y, Karen Cheryl.
Oui, donc on va écouter donc un morceau de Karen Cheryl qui date de 1977. Je vous signale que...
Elle est bien conservée.
Je rectifie, de 1977. Et c'est son premier 45 tours. Donc on va écouter, c'est « Épouse-moi ».
Épouse-moi et partageons notre existence. Épouse-moi, notre horoscope est à la chance. Épouse-moi, laissons nos cœurs suivre nos rêves. Laissons nos corps suivre nos lèvres et le destin suivre nos pas. Épouse-moi, épouse-moi. Je ne t'ai pas cherché, tu étais déjà en moi.
Je n'ai eu qu'à t'aimer et à tendre les bras.
Et puisqu'on se ressemble,
si l'on veut
ensemble, l'amour qui nous rassemble. Épouse-moi, fais-moi prisonnière de tes chaînes. Épouse-moi, deviens ma joie, deviens mes peines. Accorde-moi le bonheur de te voir sourire, le bonheur de t'entendre dire ces mots qui déchirent ma voix. Épouse-moi, épouse-moi.
Je ne t'ai pas cherché, tu étais déjà en moi.
Voilà, j'ai à préciser que donc le garage chéri n'a pas été refaite. Voilà. Et je voulais aussi dire qu'elle est originaire de Donnay-sous-Bois à Paris. Et donc son vrai nom et prénom, c'est Isabelle Morisset. Voilà.
Et bien, entre.
Hein ?
Elle fait de la radio sur Europe 1.
Oui, c'est ça.
Eh bien, on te remercie Margot pour ta rubrique. Et maintenant, nous allons passer à la fourmi des spectacles présentée par Nathalie.
Concert. Théâtre. Ouf, détente.
Explore.
Musique.
Spectacle.
Théâtre. Humour.
Humour.
Comédie.
Animation.
Loisir. Divertissement.
Divertissement.
Spectacle.
Humour.
Comédie. Loisir.
Concert.
La fourmi des spectacles.
Oui, bonjour à tous, chers auditeurs, chères auditrices et à la troupe qui est ici présente. Alors cette semaine, je vais vous parler d'un humoriste, Sacha Juzdensko, le fabuleux destin de Sacha le Rouquin. C'est un jeune humoriste qui a été révélé au grand public par Laurent Ruquier dans l'émission « On n'en demande qu'à en rire » sur France 2. 100% des personnes qui ont vu ce spectacle se sont reconnues dedans. Et ne rêvez pas, vous ne serez pas l'exception. Donc, le 28 et 29 septembre, au Spotlight, à 21h30, rue Léon Gambetta à Lille, je vous invite et vous conseille de réserver sur spotlightlille.com. Donc, le prix des places, c'est entre 16 et 19 euros. Et je pense que ce détour doit être dans la lignée de l'humour pur. Alors, bonne soirée. Ensuite, je vous avais parlé la semaine dernière du grand orgue dans tous ses états. Et je vous en reparle cette semaine car il récidive. Il perdure de nouveau à la cathédrale Notre-Dame de la Treille dans le vieux Lille. Cette fois, il s'agira de chef-d'œuvre de l'orgue baroque. C'est une messe à l'usage des paroisses de François Couperin et les chantres alternent la messe avec des chants grégoriens. Et bien sûr, son incontournable grand orgue. C'est à 16h30 et le prix est entre 15 et 20 euros. Voilà, à la semaine prochaine.
Merci Nathalie. Donc ensuite, je passe le témoin à Margot.
Les entonnoirs.
Ici des fous.
Pardon ?
Ici des fous.
Margot.
Veux-tu nous parler de ta chronique santé?
Ah
oui, j'étais tout dans l'une. Excusez-moi. Donc voilà, je vais vous dire ce qu'il faut exactement pour quand vous faites hospitaliser pour un petit séjour à l'hôpital. Donc il faut ramener des pyjamas ou des chemises de nuit ou alors une robe de chambre, des pantoufles, des chaussettes, un pain ou une brosse, des slips ou une culotte. Trousse de toilette, savon, gants de toilette, brosse à dents, dentifrice, shampoing, gel ou maquillage si vous voulez les femmes vous maquiller. Donc aussi un réveil ou si vous pouvez prendre aussi un radio portatif ou un baladeur, des livres, jeux de cartes, tricot quoi pour passer le temps quoi. Et par contre, vous pouvez prendre une photo que vous aimez bien et le mettre sur votre table de chevet. Et n'oubliez pas surtout ce qui est très important, c'est les papiers de la prise en charge de votre hospitalisation. L'argent, évitez d'en prendre beaucoup parce qu'il y a des vols dans les hôpitaux. Et aussi, si vous avez vraiment des choses de valeur, faites une déclaration auprès d'une infirmière. c'est une déclaration comme quoi vous avez des choses qui ont de la valeur, mais surtout évitez de prendre aussi des bijoux, tout ça, parce que c'est volé aussi. Donc voilà, voilà, c'est fini.
Merci Margot. Maintenant, nous allons passer à l'actualité. Nous allons parler des OGM avec Guilhem. Guilhem, de quoi il est question alors ?
Alors, avant de parler de l'actualité, donc des OGM, je voulais revenir sur l'agenda des spectacles, parce que Jérôme, il me semble que ce week-end, ce dimanche, tu fais une exposition, c'est ça, à la plus petite galerie du monde. Est-ce que tu veux bien en parler deux minutes ?
Voilà, dimanche là qui arrive, on sera le 30, ouais, je crois que c'est le dernier dimanche.
29.
Et non, je crois qu'on est le 30.
On sera le 30.
À la plus petite galerie du monde, ou presque, il y a l'exposition de l'atelier dessin peinture avec animé par Hervé Waguet, et venez, c'est vraiment bien, il y a à boire, pas d'alcool, mais il y a à boire, il y a à manger, il y a non pas d'alcool et y aura peut-être de la musique aussi, on a prévu des trucs, voilà.
Venez nombreux.
Je tiens à préciser que c'est au 69 rue des Arts à Roubaix.
Ouais. Voilà, merci Jérôme. Du coup, moi, je vais m'occuper de la partie un peu sérieuse que j'ai récupérée un peu au dernier moment. On va parler des OGM. Je sais pas si vous êtes au courant. La semaine dernière, il y a eu une étude qui est sortie sur la toxicité présumée des OGM. Elle a été menée par le professeur Cerilini. C'est une étude qui a duré 2 ans, qui a été faite quasiment dans la clandestinité, qui a été financée en grande partie par des fonds privés dont Monsieur Mullier a fortement contribué. Les résultats sont quand même assez inquiétant, on va dire. Il faut savoir qu'ils ont fait des tests sur 200 rats et ils ont mis des dosages dans l'alimentation d'environ 11% d'OGM, et dans l'eau ils ont mis un peu de Roundup. Je sais pas si vous voyez ce que c'est le Roundup, c'est l'engrais Monsanto qui permet de tuer toutes les mauvaises herbes et tout ça, et dont les OGM sont le maïs par exemple est génétiquement modifié pour supporter cet herbicide, cet intoxicide, enfin, vous avez compris. Le truc qui tue les insectes, quoi. Grosso modo, ce qui s'est produit c'est que cette étude montre que ce dosage d'OGM dans la santé relèverait des mortalités plus rapides et plus fortes au cours de la consommation de chacun des deux produits, avec des effets hormonaux non linéaires et reliés au sexe. Je ne sais pas si vous avez pu voir les photos des rats avec les grosses tumeurs mammaires et tout ça. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe ? Au niveau du gouvernement français, il veut saisir l'ANSSE pour une autre expertise, ça va prendre 2-3 mois. Et l'étude a été contestée, bien sûr, par d'autres scientifiques qui disent que 200 rats c'est pas assez, et que les races de rats apparemment déjà présentaient sans les OGM plus de risques de faire des cancers, des choses comme ça. On va faire un petit tour de table si vous voulez bien. Je vais commencer par Tard. Qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que ça t'étonne ?
Non, ça m'étonne pas, parce que moi ça fait un petit moment cette histoire des OGM. On a entendu parler du maïs transgénique, c'est ça ? Donc du maïs transgénique, et puis ça fait un petit moment, et puis j'ai même vu un député européen je sais plus comment il s'appelle, avec sa grande moustache, qui a été arrêté parce qu'il a fauché des maïs OGM.
José Bové,
voilà. Donc non, ça m'étonne pas, mais c'est préoccupant parce que c'est cancérigène. Parce que maintenant, si le maïs est affecté, pourquoi pas les autres légumes, les autres fruits, etc. Alors il faut se poser des vrais problèmes. Comment consommer ? Qu'est-ce qu'on va consommer ? Est-ce qu'on va encore avoir confiance en nos producteurs ? Voilà.
Ouais, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que on en bouffe des OGM, parce que par exemple la moitié du soja, je sais plus si c'est la moitié, je crois que c'est 70% du soja produit aux États-Unis et du soja transgénique, que 80% du maïs produit en Amérique latine et qui sert à nourrir les bovins et les moutons et j'en passe, d'autres bestioles, et les poulets, etc., qu'on importe sont du maïs transgénique. On en bouffe tous les jours, hein.
Nathalie. Et oui, ben, pour continuer ce que disait François, oui, c'est vrai qu'on le sait pas encore, mais ils l'ont dit effectivement cette semaine aux informations que ben, maintenant il y a des traces d'OGM dans toute l'alimentation en général. Et voilà, tout à fait, et ça faut le savoir, c'est-à-dire que c'est pas toujours bien écrit, c'est pas toujours lisible, mais il faut savoir dans tout ce que vous achetez, même si c'est pas marqué, il y a des traces d'OGM malheureusement.
Margot.
Moi, je trouve ces informations inquiétantes. J'espère seulement que l'humanité ne court pas à la catastrophe parce que il y a vraiment de quoi s'interroger.
Je pense pas qu'elle court à la catastrophe parce que j'ai fait un reportage il y a pas longtemps, c'était sur le Japon. Et ils mettaient ils faisaient leurs courses et sur la liste des courses, vous voyez, sur les étiquettes qu'on lit jamais, il y avait le taux de becquerel en fait. Donc il y aura sûrement un taux d'OGM qui sera noté sur les barquettes de viande qu'on achète et puis si on les lit, on saura quel tour on mange.
Mais dans les infos que j'ai données, il y a quand même un truc moi qui m'a interpellé. C'est pourquoi Mullier, qui est plein de fric, tout ça, va financer, on pourrait se dire c'est contre ses intérêts. Et pas du tout en fait, c'est plutôt intelligent parce qu'il se dit qu'en finançant ça, en finançant ce genre d'études, si plus tard il y a un cas. Qui se repose comme il y a eu la vache poule dans les années 90 ou tout ça, où après la grande distribution de ça a été accusée, là, ben, comme tu fais le signe, il se lave les mains et dit non, regardez, ça a été montré. La deuxième question qu'on peut se poser aussi, c'est pourquoi on met pas en avant le principe de précaution? Pourquoi on les laisse consommer? On dit, effectivement, on suppose que peut-être il y a des risques, mais on n'envisage pas et on verra plus tard.
Mais au niveau juridique, c'est interdit, l'emploi des OGM est interdit. Il y a une réglementation juridique, même au niveau européen, il me semble.
Alors, en France, oui, c'est interdit, les OGM, en théorie. C'est encore autorisé pour des essais, et pour des essais, en fait, mais à petite dose. Et normalement, il y a un moratoire même sur ces essais. Mais dans les autres pays, comme en Amérique latine, par exemple, la vache qui vient d'Argentine, par exemple, voilà, elle est bourrée d'OGM puisqu'elle mange que ça, quoi. Elle mange des tourteaux de maïs, des tourteaux de soja et à base d'OGM.
Les invités, vous voulez réagir sur les OGM? Ça vous choque pas les OGM?
Bah oui, c'est choquant évidemment. Après tout, je sais pas si c'est, j'ai du mal à comprendre en quoi c'est une surprise parce que. Du coup, ça fait quand même un moment qu'on se doutait moment, que ouais. Ça finirait comme ça, que ça se passerait comme ça. Mais moi, ce qui me surprend, effectivement, c'est le fait que ce soit Mullier qui finance. Alors après, le fait de dire que ça lui donne un alibi pour plus tard, je trouve ça un peu bizarre quand même. Je sais pas, il doit y avoir plus que ça à gagner, à mon avis. Mais je sais pas quoi, là. C'est ça qui me pose question.
Ouais. Sachant que Mullier, c'est qu'un petit donateur, hein, parce que derrière, t'en as beaucoup, hein. T'en as plein comme du groupe Mullier, je crois qu'il y a le groupe Leclerc aussi qui a participé, ils ont fait ça en fondation. Peut-être c'est pour payer moins d'impôts.
Nous sommes sauvés.
Le fondateur est mort.
Quelqu'un veut réagir?
Pour moi, ça va dans la même. C'est de la même acabit que le gaz de schiste. Ce qui se passe sur le gaz de schiste, c'est dans le même genre. Le moratoire est difficile à mettre en place. Les études ont montré que c'était très nocif pour les sols. Voilà, le poids des, pour moi, c'est le poids des lobbies au niveau des institutions européennes, le poids des entreprises qui payent justement des chercheurs pour.
Et moi, je voulais savoir une fois que on plante des plantations OGM là. Après, la terre, elle est foutue, quoi.
Pas forcément, mais ça se ressent, par exemple, dans toute la chaîne alimentaire, puisque, par exemple, ne serait-ce que les abeilles qui vont butiner de fleur en fleur transmettent les gènes OGM d'une fleur à l'autre. Et ce qui se fait, qu'il y a des contaminations OGM qui se dispersent.
Voilà, et comme elles sont plus résistantes, en fait, par exemple, le maïs, comme il est plus résistant aux maladies, parce qu'il est génétiquement modifié, c'est lui qui va après, peu à peu, prendre le pas sur les autres cultures.
Très bien, je crois qu'on va s'arrêter là pour le sujet des OGM. Alors,
nous allons passer à la spirale.
Oui, de Jérôme et de François.
La spirale, la spirale, la spirale.
Le disque, cet objet circulaire, comprend une spirale. La spirale tourne dans la platine, mais elle tourne aussi dans les têtes.
Donc qu'est-ce qui commence ? Jérôme, tu veux commencer ? François, peut-être ? François, peut-être ?
Bon allez, pour une fois cette semaine, c'est moi qui commence. Alors je fais la face A, Jérôme, tu feras la face B. Alors moi, je vous propose un morceau d'Igelin.
Quand je me suis réveillé, je me voyais déjà parti sur un voilier dans les pays lointains, au bord d'une plage, avec une belle fille qui me batte à la nage et qui me déshabille pendant que je gambille autour d'un poisson-chat. Est-ce que t'entends ce que je vois? Hey Mickey, c'est toi qui as composé le morceau, prends le solo. La couenne, quand elle a peur de vivre ou de mourir, je m'arrange toujours pour la faire souffrir jusqu'à ce qu'elle pleure. Elle pleure de rire dans mes bras. C'est comme ça, à qui le tour? S'asseoir à la terrasse du rendez-vous des naufragés et regarder les baleines passer. Hey Polo, peux me ramener un cap paquet de club s'il te plaît? Fais comme un rat qui vient de s'arracher la queue d'un vieux lézard. Hépatique, hépatique, éthylique, mais très empoté.
d'amour.
Alors voilà, c'était un morceau de Jacques Higelin, qui fait vraiment penser au bord de mer. C'est une biguine d'ailleurs, hein, la musique, qui fait penser au bord de mer, à la flémardise, à un cocktail et aux vacances. Voilà, les doigts de pied en éventail dans les tongs. Et voilà, c'était pour poursuivre un peu ces deux mois d'été qu'on a eu, pas terrible, terrible, et oublier un peu la grisaille d'aujourd'hui.
Merci François pour ce morceau très humoristique.
Ouais, merci François.
À toi Jérôme.
Moi c'est pas le même genre. Quand j'allais chez Face B, c'est le groupe Soft Cell qui est le groupe de Monsieur Marc Almond. C'est les années 80. Soft Cell. Chips and Mashold. Chips and Mashold. C'était Chips on My Shoulder, le soft cell. Alors chips, c'est les pellicules. Shoulder, c'est les épaules. Donc pellicule, c'est les épaules, en gros, quoi. Voilà, c'était de la new wave, néo-vaveux. New wave, ouais, c'est un courant. En fait, c'est ce qui est intéressant à cette époque, 1981, c'est l'électronique qui rentre dans la musique réellement. Bon, bien sûr, il y a eu les mastodontes, Kraftwerk, Klaus Schulze, Tangerine Dream, mais eux, ils faisaient de la musique un peu, c'était expérimental, on va dire. Après, ça donnera un courant électronique incroyable à la musique. Voilà. Jusqu'à aujourd'hui, l'électro-techno, tous ces mouvements électroniques. Voilà.
François,
t'as oublié dans tes groupes cités Yellow.
Tout à fait, t'as raison. Yellow. Human League,
ouais.
Il y en a plein,
ouais. Mais j'aime bien cette New Wave parce que ça fait vraiment penser à la New Wave des années 80. Et c'est pas la New Wave post-punk, exactement. C'est pas la New Wave tatapoum, en fait. Ouais. C'est vraiment la New Wave plus électro, plus soft.
Isabella, les yeux bleus, Isabella.
Florent.
Voilà.
Très bien. Alors, on va passer à la suite. Donc, avant de parler de l'avenir du futur par Brahim sur la quarantaine, nous vivons l'instant présent parce qu'aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Brahim. Ah, je vais pas chialer.
Bon anniversaire, Brahim.
Bon anniversaire d'abord.
Bon anniversaire, Brahim.
Alors, ça fait drôle parce que j'ai 40 ans. Avant, j'avais pas. Alors, pas bizarrement, cette année, peut-être ça va durer plus longtemps. Voilà.
Florent, il a une surprise
pour toi.
À présent, je t'ai fait un petit présent. J'ai rédigé un poème pour ton.
Un poème pour toi.
Parce que 40 ans, ça se fête et j'espère que t'apprécieras. J'espère que. Bon, voilà, je vais commencer. Alors, chers collègues, tellement petit mais grand par le talent, avec lui l'anarchie, bien qu'intéressant, aujourd'hui tu as 40 ans, et ô combien marrant, pas toujours très clair et peu atrabilaire. Toi le dragueur de métier, en conquête chevronnée, toi à qui a l'humour décalé, mais à chaque fois tu fais rigoler. Avec toi on ne s'ennuie jamais, c'est pour ça que tu es tellement apprécié, toi, Brahim le Grand, dans la cour des très grands, immensément grand. Voilà, merci.
Merci.
Bravo.
Merci.
Et donc, nous voyons Florent qui se lève et...
Rédigé ce matin.
Qui remet son cadeau à Brahim. On te remercie, Florent, pour ce poème.
C'est un beau poème. Pourquoi tu ne crées pas des poèmes à la radio? Pourquoi tu ne crées pas des poèmes pour la radio?
Il va
à
la concurrence avec Bruno Morello.
Et donc, maintenant, nous allons passer à l'avenir du futur, c'est ça, Florent? Où nous allons parler de la quarantaine, il me semble.
Tu peux enchaîner, Brahim, si tu veux.
L'avenir du futur. Du futur. Du futur et du futur. Passé, futur. L'avenir du futur. Peut-être dans l'espace, il y a une autre parallèle, soit au quatrième dimension, mais là, l'autre parallèle, comment on utilise dans le futur l'adinage, ou soit des quarantaines des années 60, dans les années 90, mais on peut voyager dans l'espace avec une marche dans le cou, ou soit il y a des toubibs avec des seringues, il fait psss, et après il dort direct à l'hôpital.
Et dans le futur, t'as un sosie, toi, il y a 40 ans aussi, aujourd'hui?
Non, il y a 40 ans comme moi, mais de temps en temps, il fait des bêtises, de temps en temps.
Mais c'est un sosie ou un jumeau? Parce que un sosie, vous avez pas forcément le même âge, hein.
J'ai vu une émission, je te coupe, Brahim, c'est Fringel, c'est sur TF1, ça passe le soir, et c'est avec des trucs paranormaux, et c'est exactement le scénario qui fait Brahim dans l'avenir du futur, avec des mondes parallèles et des gens qui vont dans les autres mondes.
Ça existe. Dans un autre monde, ça existe. Quand tu traverses de l'autre côté, de Roubaix, tu es dans le même monde de Roubaix. Comme Pierre de
Dubois.
Le jour de jour bonbon. Jour de ben c'est ici ça ça crée voilà.
Est-ce que tu crois que plus tard on ira sur Mars
quand on est dans peut-être des machines électriques soit des fusées ou soit des
navettes.
Avec une télécommande tu marques t'as de te laisser te passer où tu reviens voilà
la transmutation
voilà.
Eh bien, on te remercie, Brian, pour cette appréciable réflexion. Maintenant, nous allons passer à la pensée de la semaine. On va parler de la simplicité. Nathalie.
La pensée de la semaine. Chut, j'ai les entonnoirs.
Alors, chers auditeurs, chères auditrices, bonjour. Donc cette semaine, dans la pensée de la semaine, nous allons parler de la simplicité. Alors, simplement, mais qu'il est compliqué de faire simple. Pour ouvrir la porte de la simplicité, fais confiance aux réflexes de l'enfance. Quand tout s'embrouille et tout s'oppose au point de t'opposer à toi-même, prends du recul et retrouve ta part d'insouciance, d'instinct, de naturel. Laisse-toi guider par ce que te dicte la voix de l'aube de ta vie. Accorde-toi une trêve vers l'enfance, dans le problème qui t'occupe, une nuit d'abandon dans ses bras et au lever du soleil, l'issue se dessinera simplement. Voilà. J'attends vos réactions, vos enfin, ressentis.
Moi,
oui.
Parce que j'ai pu comprendre, la simplicité est liée à une certaine histoire, c'est lié à l'enfance. Donc, au niveau de l'enfance, on retrouve l'innocence, des choses très très simples de la vie quotidienne, quoi.
Oui.
Et donc, il y a un rapport enfant et simplicité, quoi.
Voilà, tout à fait.
Moi, je pense que, quel que soit le milieu, on peut être influencé par... quel que soit le milieu, c'est pas...
C'est-à-dire que si tu as des problèmes, si tu t'embrouilles, comme Tard vient de le dire, il est bon de te retrouver, de te replier sur toi-même et trouver une part en toi qui te laisse une certaine insouciance et surtout quelque chose de l'enfance que tu as aimé et qui ressort et qui te redonne justement cette simplicité. Margot ?
Oui, je te donne tout à fait raison. Moi, c'est ce que j'ai fait et ça fonctionne très bien.
Voilà. Ça influe beaucoup sur la façon de faire l'enfance, mais ça fait pas tout après.
C'est-à-dire, c'est pour voir aussi l'enfance que tu as. Si t'as une enfance bien, c'est bien. Si t'as une enfance mal, automatiquement, voilà. Donc c'est comme elle dit, c'est prendre en main quoi. En fait.
Moi, je pense que c'est plutôt un état d'esprit.
Ouais.
C'est l'état d'esprit de l'enfant, voit les choses simplement. Sans s'embrouiller, sans se compliquer. En général, il voit une chose à la fois. Il échafaude pas des plans sur la comète, des machins, des trucs, des bidules. Et il faut revenir à ça, en fait. Revenir à une certaine simplicité d'esprit pour justement pouvoir analyser les choses une à une et simplement, sans s'embrouiller, des multiples choses qui nous assaillent.
Ça me rappelle la discussion que j'ai eue ce midi, mais ce qui compte, grosso modo, c'est vivre au présent, quoi. Essayer de se détacher un petit peu de... Moi, je l'entends comme ça. Comme il dit, l'enfance, c'est plutôt un état d'esprit, quelque chose comme ça. Et la simplicité, ça serait, à un moment donné, arriver à se détacher, revenir sur ce qui est important.
Voilà, tout à fait.
Et tout simplement, à place d'être dans les regrets ou les regrets du passé ou l'inquiétude de ce qui pourrait arriver, essayer de se recentrer, de voir ce qui est important et ce qui est important.
C'est sûr que, un retour aux sources, ça peut aider beaucoup aider aussi.
Ouais. Margot.
Mais c'est pas si évident que ça. Hein. Moi, je te confirme, c'est pas évident.
Voir les choses simplement, c'est un gros travail. C'est un gros travail de délagage de tout ce qui nous parasite.
Alors on peut penser, par exemple, au goûter qu'on faisait quand on était enfant. Mm-hmm. Et tout de suite, rien qu'à goûter, c'est rien du tout, mais c'est quand même des souvenirs énormes chez beaucoup d'entre nous, peut-être pas tout le monde, mais chez beaucoup d'entre nous. Donc c'est un peu ça la simplicité, je pense, c'est de se contenter de petites choses comme le font les enfants, le sourire de quelqu'un, goûter, une maîtresse, quelle qu'elle soit, qu'on connaît.
Les bonheurs simples. Comme on dit.
C'est vrai, c'est vrai ce que tu dis. Enfin, moi, je me souviens beaucoup des fêtes, justement, tu en parles, Rachid. Les fêtes, là, les Noëls, j'ai vécu des Noëls formidables. J'étais gamin, et c'était magique, quoi.
La coquille de Noël c'était, à l'école,
C'est énorme. On se rend pas compte, mais pour les enfants, c'est inoubliable.
C'est une bouteille de lait, une boîte de Benko, hein, pour 45 ans.
Ma mère, elle a connu les premières oranges à Noël. Les premières oranges, elles sont apparues dans les années 50, comme ça, je crois. Et maintenant, c'est courant. Mais au début, une orange, on avait une orange à Noël. Et c'était bizarre. Ouais,
ouais. Et les enfants, ils ont eu des jouets. Et peut-être que l'enfant, il était malheureux sans jouets et sans Père Noël. Comment tu vas faire plus tard, ou soit dans l'avenir? Comment tu vas faire plus tard dans l'avenir, au-delà?
Oui, bonjour, chers auditeurs, chères auditrices. Voilà, moi, en fait, j'ai eu une enfance très difficile. Et je vais vous la raconter d'ailleurs. Voilà, mon père, il m'a mis dehors.
Je pense qu'on va pas raconter sa vie privée, on n'est pas là pour ça. Mais qu'est-ce que tu veux dire sur la simplicité?
La simplicité, c'est en nous-mêmes.
Ouais.
C'est à nous d'être simples.
Exactement.
Mais malheureusement, il y a beaucoup de gens qui se compliquent la vie. Il y en a même trop.
Exactement.
Et c'est ça qui est triste. Et c'est pour ça que le monde va mal. Parce que les gens oublient la simplicité. Mais en fait, c'est très important la simplicité. C'est tout comme le naturel. Mais les gens, ils sont perdus, quoi.
On va rester sur ces bonnes paroles. Hakim, merci.
Merci,
oui,
Hakim. Plus,
merci.
Et maintenant, nous allons passer à la météo de Brahim. Brahim.
Cher auditeur, cher auditrice, voici vendredi, le beau temps, toute la journée est du 7 degrés à 7 degrés et 17 degrés. Samedi, la pluie est perméable toute la journée après-midi. Dimanche, le temps tout ensoleillé, toute la journée fera beau. Voilà.
Merci.
Merci.
Maintenant, nous allons passer à une musique de Brahim.
Pour terminer,
que vas-tu nous passer? C'est Nena, c'est ça?
Ouais, Nena. C'est une chanson de jeu dédicace pour tout le monde, pour les anniversaires, et voilà. À très bientôt. Bye bye.
Au revoir. Alors écoute ma chanson, tes 99 ballons qu'on a lâchés à l'horizon. 99 femmes et de guerre, aucune place pour les vainqueurs, plus de ministres de la guerre, et dans le ciel, plus un chasseur. Aujourd'hui je fais mes rondes, il n'y a plus que de ruines dans le monde, sauf un ballon que j'ai trouvé. Pour toi, je le laisse envoler.
Vous savez, les entonnoirs, ce qu'on trouve dans les tornades.
C'est des entonnoirs parce qu'ils donnent plus fou dans la tête et ça gratte des poux sur ma tête et je viens plus fou, c'est ça des entonnoirs.